Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des artistes qui dénotent par leur liberté. Mon invité de ce matin en est un. Peintre figuratif à l'heure d'un art contemporain qui ne l'est que rarement. Peintre du réel à l'heure de la conceptualisation de ce dernier. Peintre de l'émerveillement à l'heure où la prime est parfois au désenchantement. Peintre mystique dans une société largement athée. Bref, autant de raisons de recevoir François-Xavier de Boissoudy pour qu'il nous parle de sa peinture et de Dieu. François-Xavier de Boissoudy, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Donc je le disais en introduction, vous êtes peintre, alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément fan que l'on parle trop de votre vie, mais on va essayer quand même à poser quelques jalons pour que les gens vous découvrent.
Bien sûr.
Donc vous êtes peintre, je l'ai dit, vous avez 48 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être juste quelles sont, je sais pas, vos racines, votre biotope familial, d'où vient François-Xavier de Boissoudy?
François-Xavier de Boissoudy, d'où vient-il? Il vient du ventre de sa mère. Il se trouvait que ça a été un peu compliqué au départ parce que j'ai changé de famille. J'ai une mère qui m'a confié à une autre famille. J'ai été abandonné, voilà. Je suis né sous X, ça commence très fort. Et donc, à 3 mois, j'ai été adopté par mes parents, voilà.
Après, vous avez grandi dans quel type de famille? Enfin, c'est important de préciser, peut-être,
oui,
que c'est une famille chrétienne, c'est ça?
Oui, absolument. C'est j'ai hérité d'une de la vie chrétienne de mes parents et j'ai hérité une belle transmission vraiment j'ai bénéficié du regard de mes parents et de, comment dirais-je,
une famille chrétienne qui vous a élevé dans la foi d'une certaine manière?
Oui,
ou
tout à fait.
J'ai été
élevé là-dedans, même si je comprenais pas tout, loin de là. Mais en même temps, c'est vraiment une chose qui m'a maintenu en vie pendant longtemps. J'ai toujours trouvé que c'était extrêmement important. C'est vraiment quelque chose que je n'ai... j'ai pas l'impression de l'avoir remis en cause profondément. Ça a toujours été là. Mes parents ont beaucoup vécu de ça, de la présence de Dieu, voilà, dans leur vie. Et j'ai bénéficié de cette présence-là. Voilà. Ils ont su trouver des relais quand j'étais rebelle pour rester dans un environnement d'amour divin.
Est-ce que vous êtes d'une famille d'artistes? Je ne sais pas. Comment s'est construit
votre
culture artistique?
Oui, tout à fait. Mon père est officier parachutiste. Non, je ne suis pas du tout d'une famille d'artistes. Ma mère aurait aimé, je pense, faire ce genre de carrière, mais elle n'a pas pu le faire, pour parler sérieusement. Et mon père a su écouter ma mère dans le sens où ma mère comprenait qu'il se passait quelque chose, que j'avais une recherche spéciale voilà, de ce côté-là. Et mon père m'a accompagné, notamment dans mes études d'art. Voilà, il m'a vraiment porté alors que j'étais pas nécessairement c'était pas nécessairement son truc, voilà.
Donc en tout cas, vous êtes donc diplômé de l'école d'art de Penningen, c'est ça?
Et puis oui, c'est l'école d'art graphique.
D'art graphique, ouais. Et puis donc vous avez commencé une carrière artistique derrière. Je sais pas à quoi ressemblait avant le peintre qu'on va décrire aujourd'hui. À quoi ressemblait le début
serait,
de votre...
Ça serait une version officielle, mais c'est pas tout à fait ça, dans le sens où j'ai fait effectivement une école d'art graphique excellente. C'est la première fois où je me suis éclaté à travailler. J'ai eu une scolarité assez pénible où je me suis pas mal ennuyé et finalement je suis pas un homme du mot, de la définition avec des mots. J'ai toujours confié ma vie intime au dessin. Et j'ai beaucoup dessiné à la place de travailler en classe. Mais j'avais un travail, oserais-je dire, plus important à faire que d'apprendre des choses à l'école, certaines choses à l'école. Un travail très concret sur ma propre dignité, voilà, que je ne tenais pas, disons que je la sentais pas bien, ma dignité, parce que ma vie a été marquée par l'abandon. Et même si ma foi était présente et m'a donné de la joie à certains moments, mais j'avais pas assez confiance en moi, après mes études par exemple, pour embrasser une carrière d'artiste, véritablement. Et ce qui a suivi, en fait, après ces années très douces où j'étais porté par l'école, par le travail à faire, etc., je savais absolument pas ce que j'allais faire après. Et j'ai eu, au contraire, des années assez dépressives, après, où je ne faisais pas grand-chose. Enfin, je faisais des recherches, mais je les abandonnais. J'étais absolument pas dans l'assurance de moi-même, même si d'une manière assez souterraine, j'ai pu progresser dans la recherche d'un travail vraiment personnel et toujours dans une recherche de vérité par rapport à ce que je vivais.
Ouais. Alors, je veux pas vous tirer les vers du nez, hein, mais c'est vrai que c'est hélas pas, enfin, l'exercice d'une émission de radio. Et puis, vous avez déjà donné ce témoignage, mais je pense que, enfin, pour nos auditeurs, c'est toujours beau d'avoir ce type de témoignage. Les quelques interviews que j'ai vues de vous, vous décrivez donc que, alors, je sais pas si ça correspond chronologiquement au moment où on se trouve, mais fort de cette recherche intérieure, de ce travail sur vous, en fait, il y a eu un événement. Et est-ce que vous pouvez peut-être raconter cet événement qui a eu lieu en 2015?
Oui.
Ou est-ce que vous avez quelques jalons à poser encore?
J'ai un jalon à poser qui est extrêmement important. En fait, j'ai été très longtemps un rebelle. C'est-à-dire, un rebelle, c'est pas, contrairement à ce que croit la société, c'est pas bien. Dans le sens où on est surtout un prisonnier. On est prisonnier du nom qu'on donne à chaque fois, à toutes les propositions. Et la première fois que j'ai dit oui, c'était en me mariant. Voilà le point crucial, le jalon que je voulais dire. Il se trouve que j'ai dit oui pour des raisons qui ne me paraissaient plus les bonnes, parce que je n'avais pas confiance en moi et que comment dirais-je, c'était pas mal. Je me suis marié pour des raisons j'étais assez infantile, j'étais encore adolescent à cette époque-là. Je suis devenu adulte vraiment effectivement en 2004 par conversion, voilà, par grâce, c'est-à-dire
donc là c'était le dernier jalon avant cette conversion.
Ouais donc... c'est-à-dire que à un moment, quand vous posez un oui et que bon, j'essayais de m'y tenir, mais si je me suis marié, c'était aussi beaucoup pour faire comme mes parents, mais j'entends suivre leur bon exemple, parce que une histoire d'amour qui réussit, c'est qu'elle, malgré les crises, malgré les difficultés, ça survit. Voilà, on apprend à aimer, c'est un travail, voilà. Et j'étais marié depuis une dizaine d'années, et franchement, ne m'aimant pas moi-même pour avoir été abandonné, parce qu'on donne toujours, on donne toujours des bonnes raisons aux parents, quoi. Mais c'est cette mère qui m'a abandonné, cette femme, je lui donnais raison en systématiquement, en ratant ce que j'entreprenais, en gros. Un jour, en 2004, 38 ans, j'ai demandé une épreuve pour aimer ma femme. Je voyais bien, je ne m'aimais pas, je ne savais pas aimer. On avait déjà 3 enfants. Et ça a été l'occasion pour moi de re-choisir ma femme après un week-end de crise et d'enfer, dans le sens entre le fait d'abandonner ou pas, voilà. En fait, à un moment, je me suis dit, parce que je venais de réouvrir un livre sur, sur Dostoïevski, où il était dit que, finalement, à propos des frères Karamazov, que la véritable lien de civilisation, c'est entre père et fils. Et ayant un fils, je me suis dit, on t'a fait du mal, on t'a abandonné, tu ne transmettras pas ce mal. Tu vas pas te transmettre le mal qu'on t'a fait, tu n'abandonneras pas toi-même.
Et c'est à ce moment-là que vous avez fait cette prière dans votre cuisine, je crois, même. Si...
C'était juste avant, j'ai prié le Seigneur, effectivement, que je priais pas souvent et certainement pas pour ça. C'était, en fait, je me suis dit, voilà, c'est son cœur de métier.
Le cœur de métier du
l'amour,
Seigneur.
Oui, l'amour. Donc je me suis dit que si je demandais à aimer, peut-être qu'on allait me répondre. Et effectivement, j'avais une amie qui était un peu ma confidente parce qu'elle avait. Elle avait. Comment dirais-je elle était victime d'un secret familial où finalement son père n'était pas son géniteur. Et donc on était relativement proches, voilà. Et j'ai dit je t'aime à cette fille. Et je me suis trouvé, voilà, entre deux femmes. Entre ma femme légitime et cette amie. Et donc j'ai choisi de redire oui à ma femme. Et véritablement adopter mes enfants. Et ce,
parce que vous racontez que vous avez reçu une grâce, en fait, que le Seigneur a répondu à votre prière.
C'est... Alors, oui, le lundi matin, après ce vendredi.
Vous nous dites ce que vous voulez bien infernal. Nous en dire.
Non, c'est pas ça, mais déroulons. Eh bien, j'ai vraiment ouvert ma Bible et que je lisais assez régulièrement, où c'était un passage de. Je crois que c'est l'Ecclésiastique où il est dit « Mon fils, délie-toi de la parole que tu as donnée et sors-toi de ton oreiller de paresse. » Donc c'était bien pour moi le message, parce que ça faisait des années que je ne faisais pas grand-chose, que j'étais vraiment coincé. Et je me suis aperçu que c'est l'identité... que je n'avais pas d'identité et que cette identité est en train de naître, voilà. Et 15 jours après, il s'est trouvé que j'ai eu une. Je suis dans mon salon, un peu encore aglandé, et j'ai vraiment reçu la grâce de la présence de l'esprit, où j'ai pris conscience. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de reçu, que j'ai reçu, un émerveillement, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que soi qu'on reçoit, qui vous fait aimer la vie. Et j'ai compris que mon nombril était une porte vers un visage, voilà. Et le visage d'une femme que je connaissais pas, et qui était la femme qui m'avait donné la vie, et pour qui véritablement j'avais une haine inconsciente. Voilà. Et il m'a été donné de pouvoir remercier pour cette vie donnée, pardonner. Et pardonnant et remerciant mon origine, je me bénissais moi-même. Voilà. Et donc j'ai pu après, parce qu'aussi il faisait beau ce jour-là, qu'il y avait une belle lumière, lier d'une manière encore inconsciente, progressivement, au bout de pas mal d'années de peinture, la guérison que je venais de recevoir la belle lumière du jour. Voilà, c'était progressivement j'ai compris que.
C'est-à-dire vous avez commencé à embrasser en fait comme une nouvelle carrière d'artiste, enfin c'est ce que vous décrivez.
Oui,
c'est
ma véritable carrière d'artiste, c'est-à-dire qu'on se trouvait avec quelque chose à dire. Quelque chose à dire et. Donc que c'était un émerveillement. Et en fait, je me suis aperçu que. Des artistes avant moi avaient reçu ça, fait l'expérience de l'amour de la vie en plénitude comme ça, en un instant, ce que les charismatiques appellent une effusion de l'esprit en fait. Voilà. Par exemple, quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau a reçu ça. Dans le sens où Jean-Jacques se promenait, voilà, il raconte ça dans La rêverie du promeneur solitaire. Qu'il est dans la campagne et il se fait attaquer par un chien. et le chien le mord, le fait tomber par terre, il heurte une pierre et le voilà évanoui. Et il se réveille en pleine nuit, vraiment des heures après, et il réalise la valeur du don de la vie. Il aime follement la vie, voilà. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui change. C'est l'expérience d'une présence aimante, quoi. C'est ça, en fait. Et ça change votre vie.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. En tout cas, merci de la vérité de vos réponses qui ne manquera pas de toucher les auditeurs, j'en suis certain. Et puis après cette première pause, on va parler de cette œuvre donc, qui n'est pas que le fruit de votre expérience personnelle, évidemment, mais quand même, comme tout artiste, on imagine que ça irrigue un peu votre peinture.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin sur et avec François-Xavier de Boissoudy, donc artiste peintre, qui en ce moment a une exposition à Paris, voilà, mais qui est de passage à Toulouse, et donc on a la chance de le recevoir. Alors, après avoir vu, pardon, à gros traits votre vie, et une fois de plus, merci de la simplicité et la vérité de ce que vous avez pu nous en dire. On va essayer de faire découvrir votre peinture aux auditeurs sans qu'ils la voient. Alors après, on peut les inviter à aller voir cette exposition à Paris. Je donnerai les informations à la fin. Ils peuvent en trouver certainement trace sur Internet. Et puis, libre à eux, en tout cas, de faire tout ce qu'il faut pour essayer de voir ces œuvres. La première chose, peut-être, je disais en introduction, c'est que vous êtes un peintre figuratif.
Oui.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, bon, je ne suis pas un grand spécialiste d'art contemporain, mais les peintres figuratifs, semble-t-il, ne sont pas légion. Qu'est-ce que vous diriez de cette première réalité
que j'ai essayé de témoigner? Là, tout à l'heure, j'ai fait un témoignage de ma vie, n'est-ce pas? Comme ça, directement par la voix. Pour les images, c'est un peu différent, parce que ça passe par ce qu'on peut appeler l'imagination poétique. C'est-à-dire, on reçoit des images. On voit des choses dans la vie qui nous marquent. J'entends une image qui, comment dirais-je, qu'on trouve belle, qui me rappelle l'état d'émerveillement dans lequel j'étais. Voilà. Et instinctivement, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Parce que je me suis dit, ça c'est important, il faut que je le dise. C'est un témoignage. Voilà. Mais par ailleurs, quand je montre des scènes de l'Évangile, je vois où je me sens concerné et je me dis, il faut. Voilà l'angle. C'est ça qu'il faut que je montre.
Vous rentrez dans la scène et puis vous voulez décrire ce que vous voyez d'une certaine manière.
Exactement. C'est comme témoin que je fais ça. Comme de toute façon, l'idée même de l'Évangile, c'est un témoignage. Donc, c'est s'inscrire dans la généalogie des témoignages. Comme il y a l'imposition des mains pour envoyer en mission, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on reçoit le charisme pour être sensible et recevoir le don de l'imagination. Alors, et après, on apprend à peindre en fonction de ça. On s'entraîne parce qu'on a une bonne raison de le faire. Voilà.
Alors si on devait prendre une première œuvre, une autre caractéristique de votre œuvre, c'est qu'elle est souvent, je sais pas si vous le diriez comme ça, mais donc en noir et blanc.
Oui.
Donc là, par exemple, j'ai un tableau sous les yeux, partons de celui-là. Donc c'est une scène de mariage.
Tout à fait.
Je vais essayer de décrire et puis vous compléterez. Donc on voit une jeune femme qui est presque en premier plan, au même plan que les autres, mais en tout cas qui est au centre du tableau, avec son époux donc sur sa droite. Et puis sur sa gauche, on aperçoit un homme barbu. Alors on imagine que c'est le Christ, et une femme à côté, et en fait, donc c'est les noces de Cana, c'est ça. Mais oui, c'est un tableau qui est à la fois contemporain, alors, et on va dire peut-être à la fois une scène évangélique. En tout cas, il y a cette réalité du noir et blanc. Pourquoi toutes vos œuvres sont en noir et blanc?
Alors, on va partir du noir et blanc. Ça faisait partie du package que j'ai reçu le jour dont nous avons parlé, c'est-à-dire ce jour de la diffusion de l'esprit. Il y avait une belle lumière, je me suis aperçu que la lumière racontait quelque chose. Et le noir et blanc, en fait, qui est un noir et blanc augmenté, puisque j'utilise trois couleurs ensemble d'encre. J'utilise de l'encre et je fais un lavis d'encre. J'utilise un sépia, un marron foncé, si vous voulez, un rouge et un bleu. Et l'idée, c'est d'avoir non pas un noir ou des gris, mais des gris légèrement colorés, parce que je suis pas un puritain. L'idée, c'est surtout de montrer par des moyens les plus simples le surgissement de la lumière. Voilà. C'est arrivé dans ma vie, ce surgissement de la lumière qui est lui-même une image. La lumière, c'est une image de Dieu. Mais en tout cas, de sa présence. Et dans ce tableau-là, montrer que les personnages... Existe par cette lumière, voilà. Et l'idée, c'était de travailler de la manière la plus sobre. Par ailleurs, je suis d'abord un dessinateur, et en mouillant mon dessin, en le rejouant avec de l'eau, c'est-à-dire que le dessin devient plus flou, plus voilà, eh bien, on fait passer le dessin de trait à valeur, c'est-à-dire qu'on les valeurs, c'est partir du plus foncé, quoi, du plus ombré, vers la lumière, voilà. Donc l'idée, c'est que ce que vous voyez de blanc sur le tableau, c'est le blanc du papier. Et l'idée, c'est de juste mettre en valeur ce qui doit être montré en tournant autour de cette réserve de blanc que je fais. Par exemple.
Alors, vous parlez du lavis. Vous pouvez préciser ce que c'est que le lavis, peut-être, pour ceux qui.
Et bien, technique que vous utilisez. Le lavis, c'est, pour moi, c'est de faire un dessin à l'encre, et ensuite de le transformer avec un peu de flotte. Donc ça se passe, imaginez, voilà, je fais souvent des formats d'un mètre par un mètre 25, c'est par terre, j'achète des grands bouts de papier que je découpe en feuilles, voilà, qu'est-ce que c'est très liquide, je verse de l'eau, que j'étale soit avec mes doigts, mais directement carrément avec une carafe. Je mets de l'encre, je fais une espèce de cuisine, n'est-ce pas, cuisine de peintre. C'est rejouer le dessin, le lavis, avec de l'eau. Voilà. C'est-à-dire laver tout simplement, quoi.
Alors, vous parlez aussi de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, vous avez commencé à le dire, mais j'ai lu que donc, vous partez du blanc du papier. En fait, et peut-être pouvez-vous préciser ce que vous avez dit précédemment. C'est-à-dire que, en fait, tout votre travail dans vos tableaux, donc, c'est de travailler sur le surgissement de la lumière, si je dois l'expliquer comme ça, en partant du blanc, en fait, de la feuille de départ, c'est ça?
Oui, c'est le moyen le plus simple. Au lieu de figurer la lumière, eh bien, on figure le reste et on laisse la lumière faire le travail par contraste. Voilà. Et la lumière, c'est peut-être le premier personnage de mes tableaux. Enfin, généralement, quand c'est pas ça, c'est que c'est raté. C'est laisser une place. Et par ailleurs, la vie, l'eau, la participation de l'eau permet quelque chose. C'est que on sort du total contrôle de son travail. On doit faire avec un élément naturel qui vit sa vie. L'eau, ça vit sa vie, en fait. Et ça fait de très jolis dessins tout seul. L'eau fait, comme dirait François d'Assise, l'eau est chaste. C'est-à-dire que elle nous remplit que ce pourquoi elle est faite, mais elle fait des choses qui sont fantastiques, et avec mêlé à de l'encre, ça laisse la trace du dessin de l'eau aussi, en même temps qu'il y a bien sûr des choses voulues, mais il ne faut pas trop que ça soit voulu, il faut laisser la possibilité au hasard de bien faire les choses.
C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans cette émission, mais sans vouloir me prendre évidemment pour un artiste. Je voudrais, peut-être on peut s'arrêter sur un autre tableau, parce qu'il y a un sujet dont vous parlez beaucoup aussi, et vous en avez parlé au début de cette émission, c'est donc l'émerveillement, puisque à vous entendre suite à cette conversion, en fait, il y a une manière dans votre peinture de redonner en fait un réel que vous voyez ou dont vous êtes témoin en lisant l'Évangile, c'est ce que vous nous avez expliqué précédemment.
J'ai force de faire ça,
et donc du coup de partager en fait ce regard d'émerveillement. Alors donc il y a une scène de l'Évangile évidemment très connue que vous avez peinte, c'est donc la nativité. Alors je vais essayer de décrire le tableau comme je peux, hein. C'est donc une petite cahute, hein, vraiment une toute petite bergerie. Il fait nuit, quoique au loin on
c'est
voit
l'aube.
Voilà, c'est l'aube. Et on voit en fait donc trois personnages, quatre même, cinq si on compte le bébé. Donc on imagine deux bergers, Joseph, Marie, le bébé. Marie est couchée tout près du bébé, comme une maman qui serait un peu fatiguée. Et puis les personnages se dessinent, mais de manière, on va dire, j'allais dire floue, enfin, en tout cas, passée à l'eau. Alors qu'est-ce que vous diriez pour compléter peut-être la description, et qu'est-ce que vous nous diriez de cette importance de l'émerveillement dans votre œuvre?
L'émerveillement, en fait.
Parlez bien devant le micro.
L'émerveillement, oui. C'est redonner une place en peinture à l'apparition. En fait, la peinture chrétienne, ça vient de quoi ? Ça vient de l'apparition du visage du Christ sur un bout de tissu, d'un supplicié sur un suaire. Voilà, l'image d'un supplicié sur un suaire. De l'image d'un Dieu qui a pris forme humaine. Voilà. Donc l'idée de faire des personnages tout illuminés dans un au tout petit matin dans une crèche, les faire apparaître comme ça en pleine lumière tout d'un coup alors que le reste reste sombre, c'est faire référence à ça, cette idée de l'apparition là de main d'homme, du visage du Sauveur sur un bout de tissu. C'est toujours ça, en fait, la toile de fond de l'art en Occident. C'est, ça a été beaucoup perdu, mais depuis très longtemps, les artistes connaissent le Saint-Suaire. Voilà. Donc,
vous
si on doit repartir sur...
Toute votre peinture et dans cette filiation, c'est ça ou dans...
Oui,
essayer de retrouver
bien sûr.
Cet émerveillement premier, c'est ça que vous voulez dire
Être dans cette intelligence-là, qui n'est pas la mienne, mais dans une tradition de reconnaître qu'on est lié à une genèse qui ne nous appartient pas. Dont on peut dire que c'est un système mythique, j'entends. C'est ça aussi ce qui permet l'imagination qui nous dépasse nous-mêmes. Quoi. On est on est dans une chaîne verticale. Nous avons des ancêtres, nous aurons des descendants. Voilà. Donc on doit se rappeler de tout ça. On doit être dans une enraciné. On doit être enraciné. Se rappeler qu'on a une identité, l'accepter, la recevoir en fait. Moi j'ai reçu, en tant qu'enfant adopté, j'ai reçu une identité. Eh bien, je la reçois aussi de la civilisation dont je suis issu, qui est celle du christianisme.
Voilà, donc François-Xavier de Boissoudy, on peut dire peintre d'art sacré, vous acceptez cette... Non ? Rapidement, je vais faire une deuxième pause et on reviendra sur ce sujet après. Alors, d'accord. Je vous donne ce qualificatif et on fait cette pause et puis après, vous pourrez répondre. Voilà, donc peintre, je ne sais pas si d'art sacré en tout cas, d'une peinture en partie religieuse.
J'assume.
Voilà, très belle peinture. On fait une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve pour développer encore un petit peu votre pensée, quelques points saillants, les choses que vous dites ou que vous avez dites sur la peinture.
Oh,
France.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin avec François-Xavier de Boissoudy, donc artiste peintre, donc qui a fait une, comment dire, qui a travaillé sur une, pour une exposition, enfin qui expose des œuvres, pardon, actuellement à Paris à la Galerie Guillaume, autour de la figure de Marie, mais plus largement, donc qui était enfin de passage à Toulouse et plus largement qui nous permet de découvrir son œuvre. Maintenant, il y a peut-être quelques vénards qui vont de temps en temps à Paris et qui vont pouvoir admirer vos peintures. Dans cette dernière partie d'émission avec vous, je voulais revenir sur quelques choses que j'ai piquées à droite à gauche sur ce que vous dites de votre peinture. Alors vous avez comment dire, vous avez évidemment dit déjà un certain nombre de choses. Déjà, peut-être pour répondre à ce que la manière dont je vous ai présenté, quand je dis que vous êtes un peintre d'art sacré, est-ce que vous acceptez ce qualificatif? C'est souvent un peu la question piège pour les artistes qui peignent des scènes d'évangile. Mais
je l'ai lentement assumé. Je me disais, mais non, je n'ai pas le niveau, c'est trop fort comme vocable. En fait, l'art sacré, ça recouvre autre chose que mon intention et mon travail. C'est disons que c'est aussi un don dans ce sens. C'est une intention aussi, mais ce qui m'est arrivé, c'est que un curé de Paris m'avait demandé un jour de faire une exposition, et il avait même accepté de le faire non plus dans sa salle paroissiale, mais dans le cœur de son église. Je lui avais vraiment demandé, c'était pour l'Avent en 2014. Le père Dominique Chéreau. Et j'ai donc préparé un travail concernant l'Avent sur la promesse. Ça s'appelait la promesse, c'est-à-dire montrer les couples en prière, de ceux qui, dont il est relaté dans la Bible, qu'ils ont reçu un enfant de Dieu. Donc il y avait Abraham et Sarah, il y avait Zacharie et Élisabeth, et Joseph et Marie. Voilà. Et une annonciation à Joseph et une annonciation à Marie. Il y avait un cycle de 5 tableaux. J'étais fier de moi, j'étais content, j'avais bien travaillé.
Et le lien avec l'art sacré, peut-être c'est...
Je vais vous le dire. Et en fait, à la Toussaint, 2 mois avant l'expo, ce prêtre est mort. Ce curé est mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en s'effaçant, il m'a montré que le destinataire de ce travail, c'était pas lui, c'était le peuple chrétien, l'Église, et que c'était un travail votif, c'était vraiment Dieu. J'ai accepté à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, ça doit être ça. Ça doit être ça, l'art sacré, voilà. C'est un travail pour communier. À la présence de Dieu et d'aider les autres à, en leur donnant des, en faisant apparaître des figures vers qui se tourner pour prier. Voilà comment j'ai accepté.
Alors vous dites aussi, enfin, j'ai cru lire un l'un ou l'autre moment que pour vous, en fait, la peinture, c'est une recherche de la vérité. Parce que donc vous avez reçu une forme de, enfin, de révélation, hein, c'est la conversion que vous avez racontée au début de cette émission.
Sur un point précis de ma vie, oui.
Mais que vous continuez d'une certaine manière à chercher la vérité. Alors ça veut dire quoi? C'est vous cherchez ce visage que vous avez entrevu, c'est ça, à travers votre peinture?
Quand on cherche une chose parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut vraiment vivre et que sinon on crève, et on cherche la vérité, oui, pas autre chose. On cherche pas le mensonge, en fait, on le fuit même si on ment soi-même souvent. On cherche sur quelque chose sur lequel se fonder profondément. Et c'est pas le système politique ou une organisation humaine, simplement humaine, qui va nous le donner. C'est effectivement en Dieu qu'on peut trouver quelque chose comme ça. Et l'art, c'est pas autre chose que ce moyen qui m'a été donné d'aller vers Dieu, voilà, par le dessin.
Alors, je ne sais pas si c'est un lien, hein, j'espère. Je vais m'arrêter sur un autre tableau.
C'est témoigner d'une épreuve dont on est ressorti vivant. L'art. C'est... Je suis pas le seul, quoi. J'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau tout à l'heure, mais regardez Solzhenitsyn, voilà. Il se met à écrire, pas parce qu'il est dans l'épreuve, mais parce qu'il a vu une vérité que on ne peut pas réduire l'homme en esclavage et que sa dignité ne tient pas d'un organigramme social ni d'une rééducation, qu'elle lui est profondément interne et que c'est un choix qu'on fait. C'est un choix d'accepter de s'aimer soi-même, voilà, et d'avoir une dignité verticale.
Alors, je ne sais pas si c'est opportun de parler de ça, mais vous me direz. Il y a un autre tableau donc, qui, lui, fait partie de l'exposition actuelle donc, à Paris. Donc,
tout à fait.
Donc, on voit l'accouchement de la Vierge.
Si, oui.
Donc, on voit au premier plan un âne,
oui.
Derrière un bœuf,
oui.
Et puis donc une femme accroupie avec un bébé, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou presque.
Il est sorti.
Et avec enfin, je ne sais pas.
Il est vraiment...
On a dû vous le dire souvent, mais avec des lumières un peu à la De La Tour. C'est-à-dire, en fait, le visage est éclairé, la lumière part de cet enfant et va sur le visage de cette femme. C'est une scène qui est assez crue, en fait, pour une peinture d'évangile.
Êtes-vous père ? Avez-vous accouché ? Avez-vous, pardon, assisté à l'accouchement de votre femme ?
J'ai cette chance.
Bon, ben voilà. C'est un truc que notre génération partage. Et quand il s'est agi de faire une recherche sur la vie d'une femme, eh bien, si cette femme un jour a connu l'accouchement, je pense que c'est un moment qui méritait d'être figuré. Voilà. Et il se trouve que c'est pas représenté généralement, mais nous qui sommes
jamais comme ça, en tout cas. C'est...
Du. Comment dirais-je ? Non pas moderne, mais d'aujourd'hui. Eh bien, les pères, contrairement à la tradition, peuvent entrer en leur place, leur petite place dans la salle de travail. C'était un événement féminin. Aujourd'hui. Bon. Après, je représente Marie. De profil, parce que c'est un événement profondément extérieur et étranger à la masculinité. Mais j'ai pensé que là encore, ayant été témoin des accouchements de Florence, ma femme, c'était audacieux de représenter celui de Marie, mais en fait, je trouvais ça surtout juste. Voilà. Et mettre un âne et un bœuf, j'ai eu cette intuition là et je trouvais ça assez fou, mais je l'ai fait quand même. Je me suis aperçu que en obéissant à cette intuition là quoi, cette image poétique, on s'aperçoit que le sauveur naît dans un endroit qui est dévolu aux animaux. Et on peut s'imaginer que Marie a couché seule, voilà, elle couche accroupie comme ça, et non pas sur une table de travail, voilà. Et que finalement notre Sauveur est un comparable né à tous les autres mammifères, dans l'ordre des mammifères. Et l'âne et le bœuf sont des témoins muets comme dit Blois, Léon Blois, de la création. Et eux n'ont pas été touchés par le péché originel. Donc les animaux ont leur présence a quelque chose à nous dire.
Alors je vois que le temps passe et j'avais quand même une ou deux autres dernières questions. Je ne sais pas si c'est une interview ou un texte que vous avez lu à l'occasion de, comment dire, des manifestations des veilleurs. Donc c'était au moment de la manif pour tous. Donc il y avait ce mouvement conduit en grande partie par la jeunesse, de gens qui se réunissaient autour de bougies comme un acte de résistance, on va dire, de la société civile à cette loi qu'ils considéraient comme inique. Et vous avez écrit donc un texte, peut-être l'avez-vous lu, vous allez nous le dire. Oui, c'était un discours.
Oui.
Vous avez cette phrase, et j'aimerais bien que vous, pour finir, que vous me disiez quelques mots sur cette phrase. Vous dites « L'art décrit et délimite la réalité ». Alors, on comprend, on regarde ce que vous avez dit précédemment, et je crois que vous faites ce distinguo justement avec l'art contemporain. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce que vous faites est mieux, hein, mais peut-être de le mettre en regard. Vous dites que la différence avec l'art contemporain, c'est qu'aujourd'hui, l'art contemporain, c'est souvent une négation du réel. Est-ce que vous pouvez, pour finir, et puis après cette peinture, justement, on ne peut plus, d'une certaine manière, réaliste, réagir sur ce sujet et nous dire pourquoi l'art décrit et délimite le réel. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est compliqué tout ça.
J'imagine.
Disons que très souvent, l'art contemporain est conceptuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage, c'est le fruit d'une pensée, le fruit d'une volonté. Mais ça a en aucun cas le fruit d'un abandon. Un abandon à ce qu'on reçoit comme image. Il y a des grands artistes d'art contemporain. Il y en a même qui parlent de l'émerveillement. Je pense à Bill Viola, qui est un vidéaste mondialement célèbre, qui fait une expérience de noyade quand il est gamin, d'une barque, et quand il remonte à la surface, il s'aperçoit de la valeur de la vie. Quoi. Il s'aperçoit, il la vit, et voilà. Et il n'en sort pas. Il n'y a pas de christianisme, mais juste de l'émerveillement. Mais ça change tout, quoi. Il n'est pas dans la critique sociale, il n'est pas dans la morale, parce que on remplace vite la présence de Dieu par de la morale. Voilà. Nous aussi, on est tentés de le faire, mais les artistes contemporains le sont, d'autant plus que pour eux, Dieu, ça n'existe pas. Et ils le remplacent très souvent par le néant. Voilà. Par ailleurs, c'est un art sans corps. C'est ça le vrai problème, souvent, de l'art conceptuel, c'est que les artistes se pensent comme des purs esprits. Et donc, ça les met en dehors du champ de l'humanité. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, on a des corps, et c'est bien de faire parler le corps. Le dessin est une manière de faire parler le corps, c'est pas juste un truc intellectuel. C'est d'abord parce qu'on n'est pas forcément très bon. On peut rater, on montre ses faiblesses par le dessin. Alors que quand vous faites souvent des œuvres d'art conceptuel, c'est vous vous mouillez pas, vous obéissez à une certaine doxa. En plus, une doxa aujourd'hui qui est une doxa d'État, surtout en France.
Donc là, quand vous dites que l'art décrit mais délimite le réel, ça veut dire quoi en fait? Ça aide tout simplement à appréhender le réel, c'est ça? Ou à rentrer dedans? Et en tout cas, on voit votre œuvre qui est une œuvre du coup de contemplation du réel et des évangiles, d'une certaine manière.
Oui, on dit qui on est. On dit qui on est profondément. C'est-à-dire qu'on situe, bien sûr qu'on situe ce qu'on montre, mais on dit aussi qui on est. On ne s'abstrait pas du travail de peintre ou travail d'artiste. On n'est pas au-dessus, on est dedans. Donc, on doit se trouver une place. Mais c'est tout le problème. Disons qu'il faut être témoin. On n'a pas le choix. On n'est pas des intellectuels. On est d'abord des gens qui recevons, des intuitions. Et ça se vit. Ça se vit dans la chair. On peut accepter ça. Mais il faut. Voilà, c'est un travail sur soi. D'acceptation que on est un réceptacle qui doit faire une gargouille, comme disait, je crois, Barbé d'Aurevilly. C'est-à-dire qu'on reçoit l'eau du haut et on doit la recracher. Voilà.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup François-Xavier de Boissoudy d'être passé par les studios de Radio Présence et vous recrachez en tout cas magnifiquement, comme une garou, je ne sais pas, mais des très belles œuvres. On rappelle votre exposition en ce moment donc sur Marie à la Galerie Guillaume à Paris.
32 rue de Penthièvre, voilà. C'est dans le 8e arrondissement. Pour si ceux... ça vous tente, c'est les stations de métro Miroménil.
Voilà, pour ceux qui seraient en voyage ou en goguette à Paris. Merci beaucoup François-Xavier de Boissoudy.
Je vous en prie.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la écouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.